RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC et RMC Story. Comme chaque année, la tradition est respectée, les grandes gueules s'installent au stand de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Oui, les grandes gueules sont installées au Hall 7, 7.3 si vous voulez savoir, c'est le grand bâtiment 7, celui des régions. Nous sommes au troisième étage.
On est au deuxième étage.
Au deuxième étage, pardon.
Le troisième, c'est le toit, mais on n'y est pas. Donc.
Avec la région. Avec la région des Hauts-de-France, avec nos amis qui chaque année nous font plaisir de nous accueillir ici au rayon des régions et des dégustations. Didier Giraud, l'homme de la Saône-et-Loire, est avec nous. Bonjour mon cher Didier.
Bonjour Alain, bonjour à la France profonde. La France profonde, on y est. Oui. On est dedans là, dans le Hall 7, on est dedans.
Nous sommes avec Joël Dagosséry, notre ami coach de vie. Bonjour ma
bonjour
chère Joël.
À tous.
Et puis Charles Consigny, l'avocat, nous accompagne. Bonjour mon cher Charles.
Bonjour à tous.
Charles qui aura une épreuve tout à l'heure. tu vas monter à cheval.
Ah mais il fallait pas le dévoiler.
Le défi GG.
Si, ce sera le défi de l'ami Charles Consigny.
J'ai fait ça. Il faut peut-être un destrier qui tire la charrue pour pouvoir loger.
A priori, c'est un poney.
Que t'aies les pieds qui touchent, ça fera comme les petites roues sur le vélo.
Charles, vous le verrez en direct sur RMC Story, bien évidemment, sur RMC, la radio, pour nous suivre tout au long de ces trois heures que nous allons passer ensemble avec, bien évidemment, les spécificités, les spécialités de la région.
Ça, ça a commencé là. On a des gâteaux
de la maison Bourdon.
Et on a aussi. Ça s'appelle des gaufres fines, ce que tu as dans la main.
Et tu sais que ça, c'est de la chicorée.
Ah oui, c'est du chicon.
Oui, du chicon. Et c'est pas mal, Joël.
C'est un petit goût de caramel.
Ouais, ça a surtout un joli goût d'endive.
Non, moi, je trouve que c'est un goût de caramel.
Joli goût d'endive, le chicon.
Alors, les amis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, de Bruxelles qui augmente de 50% le budget de chez jet privé, ça faut quand même oser. Nous recevrons bien sûr le président de la région des Hauts-de-France. Il sera avec nous, Xavier Bertrand, pour parler de sa région et parler de ses ambitions présidentielles. Du salon de l'agriculture, un salon sans vaches, c'est vrai, mais est-ce que pour autant on a un salon apaisé? Ça, on verra ça dans un quart d'heure. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce qu'était l'événement du week-end, ce que l'on annonçait comme la marche sous tension, l'hommage à Quentin. Est-ce que ça a été un hommage fasciste? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules. Oui, cette marche, tout le monde l'a présentée comme la marche sous tension, la marche de l'affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Finalement, de bataille rangée, il n'y a pas eu. Mais on s'est quand même posé la question de savoir à qui avait-on affaire. Est-ce que c'était une marche hommage ou une marche fasciste?
Alors déjà, ça s'est bien passé. Et donc, il faut rendre hommage au travail de la police, des forces de l'ordre et de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui avait autorisé cette manifestation, alors que le maire de Lyon n'en voulait pas. Et donc, Laurent Nunez, finalement, a réussi son pari, ça s'est bien passé. En même temps, ils n'étaient pas très nombreux, hein. 3200 personnes y ont participé selon les chiffres de la préfecture du Rhône. C'était l'ultra-droite qui était dans la rue très clairement. D'ailleurs, des saluts nazis dans la marche ont été remarqués, avec aussi des slogans racistes sur les bords du cortège. Ils ont d'ailleurs été signalés à la justice. Il y aura donc une enquête. Mais à part ça, donc pas d'affrontement avec les antifas, c'est ce qu'on redoutait. Rappelons quand même que cette marche n'était pas soutenue par la famille. En tout cas, la famille n'y a pas participé. Et rappelons également même que Jordan Bardella, en tant que président du RN, avait demandé à ses troupes de ne pas y participer. Donc c'était un peu la marche de tous les dangers. Ça s'est bien passé, mais c'est la marche ultra-droite. Enfin, ça paraît assez clair.
Est-ce que on a vu des saluts nazis? Est-ce que c'était la marche fasciste, Charles?
Il y avait peut-être dans le cortège quelques éléments d'extrême droite, c'est sûr. Mais en même temps, moi, je trouve que la honte, c'était que des antifas s'y déplacent. Je veux dire, pour moi, tout représentant de près ou de loin des mouvances d'extrême gauche se déplaçant à cette marche commettait, à mon sens, un impair d'indécence.
Du coup, ils ont manifesté ailleurs, notamment à Rennes. C'était pas très nombreux non plus, quelques centaines.
Et beaucoup de gens ont demandé l'interdiction de cette marche. On voit bien que finalement, elle pouvait parfaitement se dérouler dans le calme. Voilà, moi je pense qu'on est quelques jours après la mort de ce jeune homme, pour moi, il y a un délai de décence à respecter. Et même si il y a pu y avoir dans les gens qui sont venus, qui se sont déplacés à cette marche pour le soutenir, quelques éléments d'extrême droite et même quelques figures. D'ailleurs, j'ai vu que le jeune Marc de Cacré, par exemple, qui est un peu repéré dans ces rangs-là, était présent. Il faut laisser passer ce temps-là, qui pour moi est un temps de deuil, de décence, juste après la mort de ce jeune homme.
Joël ?
Moi, je trouve au contraire que c'est un temps d'indécence et non un temps de décence. Je ne sais pas ce qu'on doit commenter là, puisque je crois que jusqu'ici, on faisait semblant de croire que le jeune Quentin, qui est malheureusement décédé, était un jeune tout à fait lambda. Ça ne veut pas dire qu'il méritait de mourir, absolument pas. Mais je veux dire par là que on fait semblant de découvrir qu'il appartenait à certains mouvements ou à une certaine mouvance. Et je crois que là, avec la marche de samedi, je pense que tout est clair pour tout le monde. Et je ne crois pas que ce soit juste deux ou trois nazillons qui se soient intégrés dans cette marche. Je crois que la plupart ont réussi à se retenir. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs images où il y avait certains chefs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui leur rappelaient que, attention, il y a des caméras, voilà, et d'autres n'ont pas pu retenir leurs élans racistes ou xénophobes. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit deux, trois clampins qui se soient égarés. Je crois que la majorité de cette marche, des personnes qui étaient présentes à cette marche, représentaient une certaine mouvance.
Dont était issu Quentin.
Et je crois que c'est clair aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, je m'étais indignée.
Donc c'était une marche fasciste. C'était des fascistes qui étaient là.
Je crois que c'était un hommage à Quentin.
De sa famille fasciste.
Exactement. Voilà. Je n'ai pas envie de dire que c'était une marche fasciste parce que je ne vais pas aller jusque-là, mais je pense que c'était un hommage de personnes fascistes à une personne, à un membre. Voilà, à un de leurs membres. Voilà ce que c'était. Et c'est pour ça que je m'étais indignée il y a quelques jours de cette minute de silence à l'Assemblée nationale.
Tu veux qu'on arrête de les présenter comme des gens blanchis?
Je pense que les 3200, non, parce que je pense qu'ils ne sont pas 3200 en France. Hein. Encore une fois, on fantasme beaucoup depuis des jours, à la fois sur l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Encore une fois, par définition, ce sont des groupuscules, ils sont extrêmement minoritaires. Et je pense que 3200, ils ne sont pas 3200 en France. Je pense qu'il y en avait, mais il y avait aussi des Lyonnais qui étaient venus des citoyens lambda, pour simplement rendre hommage au jeune Quentin.
Bien sûr, on va bien maintenant blanchir cette marche.
Mais est-ce que je blanchis la marche en disant ça ?
Et bien sûr, on va blanchir cette marche.
Je te dis qu'il y avait effectivement des groupuscules d'extrême droite, mais qui ne sont pas 3200 en France.
Même le parti d'extrême droite ici, qui est maintenant tout à fait apparemment républicain, a tout fait pour ne pas apparaître dans ce cortège. Donc il y a bien une raison.
Ils s'estiment pas d'extrême droite.
Oui, non, mais si c'était des citoyens lambda, des Lyonnais lambda, je pense pas que le RN se serait entre guillemets désolidarisé de cette marche.
Il y avait des citoyens lambda.
Oui, d'accord.
Jean-Michel Aulas avait dit qu'il participait. Je sais pas s'il y était finalement. Oui. Il avait dit au départ qu'il participerait.
Didier Giraud. Bah,
moi, je trouve qu'on fait beaucoup de foin pour pas grand-chose, quoi. 3200 en Pékin, là, qui défilent avec tout le cirque qu'a fait cette affaire et tous les risques d'affrontement. Chacun voulait en découdre à cet endroit-là pour finalement se retrouver à 3200 et avoir 12 signalements de salut nazi. Enfin, je veux dire, c'était pas les chemises noires annoncées, quoi. Et en même temps, la contre-manifestation à Rennes, ils étaient pas beaucoup plus nombreux. Et je trouve qu'on fait
beaucoup... Mais ils sont pas trop nombreux. Je pense que médiatiquement, on s'excite là-dessus, mais c'est des gens qui représentent pas grand-chose.
Tu me coupes, je suis en train de dire. Ils sont dangereux. À Rennes, ils étaient pas plus nombreux, et je trouve qu'on en fait des caisses depuis la mort de ce pauvre Quentin. On en fait des caisses pour des gens qui représentent une infime minorité de notre société. Et t'as raison, ils sont dangereux, puisque même en sachant surveiller, il y a des signalements de salut nazi, tout ça. Moi, j'ai vu des images où quand même les capos, on va dire, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les capos, ceux qui font régner l'ordre dans une manif ou dans une tribune, ont essayé de faire en sorte que ceux qui dérivaient, ils étaient tout de suite recadrés. Et je sais pas si ça représente une mouvance qui va prendre le pouvoir en France. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils sont minoritaires. Il y a un gamin qui a été tué dans une rixe ou dans un guet-apens. Moi, j'en sais rien. C'est la justice qui le dira. Et à la fin, ces deux camps qui devaient s'affronter, on a quand même déplacé 5 compagnies de CRS pour l'affaire, quoi, quand même. Hein. 5 compagnies de CRS, messieurs dames. Hein. Pour 3200 gugus et deux mecs qui font un salut.
C'est pour ça que ça vient pas dire.
Oui, mais peut-être qu'il fallait ça.
S'il y a eu la casse dans Lyon, tu serais le premier à râler ce matin. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Là, on peut pas reprocher à Nunes d'avoir mis le paquet. Au moins, ça s'est bien passé. Et Lyon n'a pas été à feu et à sang tout le samedi.
Très bien. Peut-être que le maire aurait pu plus encadrer plutôt que de dire
qu'il ne veut pas. Mais c'est pas le maire qui encadre.
Non, mais en même temps,
ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cette affaire, elle révèle, ce drame, en fait. C'est que derrière LFI, si jamais LFI gagne présidentielle, qu'est-ce que ça va libérer? Si le Rassemblement National gagne la présidentielle, qu'est-ce que ça va libérer? Quelles sont les troupes qui derrière des gens de bonne foi qui voteront pour eux, des lambda, des kidam, qu'est-ce que ça va libérer comme groupuscule? Qu'est-ce que ça peut déclencher?
Sauf que là, et ça, moi, j'ai pas vu les Lyonnais descendre en masse non. pour soutenir ce groupe-là. Enfin, tu vois,
c'est pas ce que je t'ai dit.
Alors qu'il y a mort quand même, quoi.
J'ai dit derrière des gens lambda, des citoyens qui de bonne foi voteront normalement pour ces partis politiques, quels sont les groupuscules agissants que ça va libérer derrière? D'ailleurs,
c'est intéressant. En même temps, c'est de voir comment les extrêmes montent parce que les autres sont infiniment nuls.
Regarde comment LFI et le RN sont.
Il faut quand même aussi dire que la montée des deux extrêmes à droite et à gauche, c'est parce que l'hypercentre est infiniment nul, quoi. Il faut quand même le dire aussi.
Alors attends, on a Thomas qui vient d'arriver au 32-16. Il nous appelle de Beaumont-sur-Oise. Il est employé commercial. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Thomas, est-ce que c'était la marche des fascistes qu'on a vue à Lyon? Alors dites-moi.
Alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec Madame Dagosséry, je suis désolé. Je suis pas de droite, je suis pas extrême droite.
Madame de Dagosséry.
Exactement. De Dagosséry, pardon, excusez-moi.
Non, c'était une blague,
La comtesse, vous l'appelez.
Bah, pas de problème.
Allez-y Thomas.
Oui, merci. Alors écoutez, je vous respecte, vous avez votre opinion et c'est normal, mais quand je vous entends, moi je suis pas d'extrême droite, encore une fois, je suis pas de droite, j'en étais à cette marche pour soutenir, puisqu'en fait il y a eu un mort, c'est tout ce qui compte. Qu'il était de gauche, de droite, je m'en fous, j'aurais été à l'un ou à l'autre, ça aurait été pareil, je ne peux pas géographiquement parce que c'est compliqué, mais quand je vous entends, je suis désolé, c'est pas une marche pour les fascistes, il y a eu des abrutis qui ont fait des saluts nazis, il faut les condamner, il n'y a pas de problème, c'est normal, ce sont des abrutis de base. Je suis d'accord avec
mais
vous.
Thomas...
Maintenant, ce ne sont pas... Attendez, excusez-moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que à chaque fois qu'il y a un sujet comme ça, vous dites fascisme, antisémite, mais les Lyonnais qui ont été, c'est des gens qui habitent là-bas, ils sont pas forcément de droite, ils sont neutres, ils ont le droit d'y aller. Il y a des abrutis, je suis d'accord avec vous, il y a des dérives, il faut les combattre. Maintenant, quand je vous entends, c'est toujours pareil, le même discours. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas de ce bord-là. Et j'ai l'impression que, en voulant soutenir cette marche, bah donc, on fait de moi un nazi, un fasciste. Bah, je suis désolé de vous le dire, madame. Bah. Non, c'est pas le cas. Et encore une fois, c'est un jeune qui est mort, qu'il soit de gauche ou de droite, il faut respecter ça. C'était pour, juste pour, alors, qu'il ait des amis, encore une fois, qu'il faille, contrôler, enfin les mouvements comme l'extrême droite, il faut les contrôler comme LFI, pareil l'extrême gauche, mais arrêtez de dire que ce sont tous des fascistes. Voilà, excusez-moi, mais moi ça m'irrite.
Oui, premièrement, Quentin s'est retrouvé là par la responsabilité d'un collectif soi-disant féministe d'extrême droite, premièrement.
Némésis, qui venait protester contre la venue de Rima Hassan.
Exactement. Ouais. Ce collectif-là, ces filles-là, pour se protéger, font appel à des personnes.
Elles ont raison parce qu'elles ont été prises à partie.
L'une
a été étranglée d'ailleurs.
C'est pas la question. Elles font appel à des personnes qui sont à peu près de leur bord. Ok, donc elles vont aller à l'extrême droite. Deuxièmement, si vous vous dites ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, voilà, vous êtes plutôt neutre. Lorsque vous décéderez, un jour ça va tous nous arriver, hein, on va décéder, et vous allez voir qui va se présenter à vos hommages. Moi, je suis pas sûre que si moi je décède, vont se présenter à mon hommage ou s'il y a une marche des personnes qui font des saluts nazis. Voilà. Donc vous m'excuserez, mais ça parle assez clairement de là où Quentin se situait. Et je veux pas laisser dire que ça n'était pas une marche d'extrême droite. Parce que des personnes d'extrême droite, et même plus de l'ultra-droite, parce que là, maintenant, on touche à autre chose, donc de l'ultra-droite, se sont senties concernées par la mort de ce jeune homme.
Et ces personnes-là, parce qu'il nous dit que
faut arrêter de dire que c'est une marche d'ultra-droite. Moi, je vous explique.
Oui, d'accord, mais
pourquoi
Joël...
Non,
c'est pas ça qu'il a dit.
Il a dit
faut qu'on arrête de traiter les gens de fascistes. Et à un moment donné, on peut être d'ultra-droite sans être un fasciste.
C'est bizarre, toi, on te traite pas de fasciste, Didier. On te traite de fasciste, toi? Non. Il y a des raisons pour lesquelles.
Si j'avais dit que Charles ne traite pas Charles de fasciste, il y a une raison pour laquelle on ne traite pas Charles de fasciste.
Est-ce que les antifas sont des fascistes alors aussi?
Mais ils sont
dans la façon
d'agir, dans les actions, dans des actions extrêmes. Pour moi, fasciste pour moi c'est l'extrême droite, c'est simple.
Ah bon?
Par contre, pour
les
moi,
antifas,
ce sont,
quand ils se tuent, ils se comportent comment?
Bah, ce sont des
la jeune garde, c'est comment tu le qualifierais la jeune garde? Si c'est pas un mouvement fasciste?
Je m'en fiche parce que si t'as envie de dire que c'est fasciste.
Ah non, parce que c'est toi qui utilises ce terme.
Non, mais là, vous êtes en train de dériver. Moi, je réponds à Thomas,
non,
tu m'expliques.
Quand même, je dérive pas. Je reviens à l'essence de l'affaire.
Thomas, il parle pas de l'ultra-gauche.
Thomas, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Quelque chose. Et je dis que si on traite des gens de fascistes, si vous avez de l'ultra-droite qui se présente à votre cérémonie, il y a une raison. Voilà.
On va regarder.
Ils ne présentent pas partout ces gens-là.
Thomas, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Dans les grandes gueules. On va regarder justement ce que vous en pensez. Est-ce que la marche de Lyon, où on sera demain d'ailleurs avec les grandes gueules, en direct de Lyon demain pour parler des élections municipales, mais de ce climat dans la ville, est-ce que c'est une marche fasciste? Vous dites non à plus de 80%.
C'est à Lyon. Voilà, Joël est hors sol comme d'habitude.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on reste bien évidemment en direct de la région des Hauts-de-France, ici au Hall 7, au deuxième étage du Salon de l'agriculture. On va s'intéresser à ce salon justement. Est-ce que c'est un salon apaisé, un salon avec la crise qui est passée. Il n'y a qu'à voir la tête de Didier Giraud pour comprendre que non. Mais on va en discuter bien évidemment avec vous, sans vache et dans la paix. 32-16, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, avec Didier Giraud, Joël Dagossier et Charles Consigny.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, en direct du stand de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'agriculture. Nous sommes au Hall 7. C'est tôt le matin. Les agriculteurs sont pas encore là. Les visiteurs non plus. Enfin, si, les agriculteurs sont là. Et les visiteurs vont arriver. On est avec Didier Giraud, Joël Dagossery et puis avec Charles Consigny. N'oubliez pas qu'aujourd'hui encore, on va vous faire gagner des vacances. Des vacances dans des clubs et hôtels Bel Embras. C'est le spécialiste des clubs vacances pour toute la famille. Et c'est une fois de plus le all-inclusive, le premium, tout compris qu'on vous fait gagner. Pour ça, il faut envoyer vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16, c'est tout simple. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Ensuite, vous partez à la mer, à la montagne ou à la campagne. C'est vous qui choisissez. J'aurai l'occasion de vous le rappeler. Avec Didier, avec Charles et avec Joël, maintenant, on va parler du salon en lui-même. Et ce sera intéressant de vous écouter, vous d'ailleurs les agriculteurs au 32-16 qui regardez peut-être ce salon de loin, savoir si c'est un salon qui est sans vache, ça c'est une certitude à cause de la maladie, mais si c'est un salon qui est maintenant apaisé.
Hier, Emmanuel Macron est venu inaugurer, il a passé 12 heures dans les allées du salon, alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est une visite très sécurisée qui a été boycottée d'ailleurs par la plupart des syndicats. Il a évité peut-être les stands où il aurait pu être interpellé directement, donc on ne peut pas vraiment mesurer, à mon avis, la colère ou non est retombée à l'aune de cette visite présidentielle. En revanche, ce qui est un peu triste, c'est un salon sans vache. De mémoire, nous, de grande gueule, on n'avait jamais vu ça, parce que ça fait quand même des années qu'on vient ici, il y a toujours eu des vaches, c'est ça qui fait aussi le succès du salon. Donc est-ce que ça va attirer moins de monde? On va le voir, je crois qu'il y en avait un peu moins quand même ce week-end, selon le dire de certains. Donc la colère, elle s'exprime peut-être différemment, Didier, alors je sais pas, toi t'es mieux placé que nous, mais tout est réglé, Madame Genevard a résolu tous les problèmes, ou est-ce qu'au contraire les dossiers sont là et ils attendent d'être pris en compte par le gouvernement?
En fait, il y a plusieurs dossiers. La raison qui fait que les vaches sont pas là, c'est parce qu'il y avait cette maladie, la DNC, qui a couru tout l'automne.
Elle est toujours là?
Alors non, aujourd'hui, il n'y a plus de cas depuis le 2 janvier.
Mais pourquoi on n'a pas fait venir
les vaches ? Les zones vaccinales sont redevenues des zones normales. Les zones de sécurité qui étaient hyper surveillées, hyper contrôlées, où les mouvements d'animaux étaient hyper contraints, tout est revenu à la zone vaccinale. Donc les animaux sont vaccinés dans les zones et le commerce redémarre, je dirais. Après, c'est les races qu'on choisit de ne pas venir, considérant qu'on était trop proche de la crise et que ça faisait prendre un risque d'amener des animaux de toute la France.
Donc on est dans le principe de précaution.
On était dans le principe de précaution. Il y a aussi une forme de solidarité vis-à-vis des gens qui ont abattu leurs troupeaux. Parce que pour éradiquer cette maladie, on a quand même abattu des troupeaux entiers. Ça représente aujourd'hui 3000 bovins en France qui ont été abattus à cause de cette maladie. Et donc, il s'exprimait de la part des éleveurs bovins une forme de solidarité vis-à-vis de ces gens qui avaient abattu leur cheptel. Après, derrière ça, il y a eu aussi un jeu pour dire, mais il n'y a pas de risque sanitaire, vous pouvez venir, mais les décisions étaient prises de ne pas venir avec les vaches. Derrière ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Je pense quand même que ça met en avant aussi les autres animaux. Moi, j'ai vu ce week-end des témoignages et j'ai vu des éleveurs ovins, des éleveurs caprins, des éleveurs de chevaux qui disent, du coup, nous, on a plus de monde que d'habitude. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour revenir à la politique, le parcours inaugural du président de la République samedi a été hyper sécurisé. Habituellement, à l'inauguration, il y a un petit déjeuner avec les trois syndicats agricoles. Là, il y en avait qu'un, c'était la FNSEA, les GIA. Il y avait, deux, du coup, la FNSEA, les GIA. Il n'y avait ni la coordination, ni la confédération paysanne, même si je crois savoir qu'il y a eu quelques rencontres de ci, de là, mais ils n'étaient pas au petit déjeuner officiel. Et puis, j'ai écouté hier sur notre antenne Jérôme Despé, qui est le président du salon, qui a fait un formidable interview en disant ce que les agriculteurs, ils attendent, c'est pas que les politiques qui défilent parce que la campagne arrive au salon pour prendre en compte.
Il y a les municipales dans 3 semaines.
Hein. C'est pas pour écouter les problèmes des agriculteurs. Tout le monde les connaît, les problèmes des agriculteurs. Tout le monde connaît les problèmes
les
des agriculteurs. Ça fait 18 mois qu'on manifeste, qu'on explique nos problèmes. Le problème, c'est qu'ils sont pas résolus. Aujourd'hui, le Mercosur est suspendu parce qu'il y a un recours à la Cour de justice européenne et que le Parlement est arrivé à faire passer ça. On ne sait pas si demain cet accord se remet. C'est suspensif, mais on ne sait pas si cet accord sera complètement et définitivement annulé ou si ça va se remettre en route. On a tous les problèmes d'autonomie alimentaire. La semaine dernière, on parlait de la pénurie des œufs et du fait que certaines grandes surfaces vendent des œufs de poules en cage qui viennent de Pologne d'ailleurs. Enfin, il y a plein de dossiers à la fois européens, mondiaux et français qui sont pas résolus. Et les agriculteurs aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même encore dans un climat un peu hostile vis-à-vis des politiques qui vont défiler parce que tout le monde nous a compris, mais personne ne nous a rien résolu.
Justement, on va aller du côté de la Mayenne. C'est Victorien qui est avec nous, qui est agriculteur. Il est comme toi, éleveur de bovins et volailles en plus. Bonjour Victorien.
Bonjour les GG, bonjour les grandes gueules. Et
salut bonjour Victorien.
Votre gueule préférée, Didier Giraud.
Ouais. Salut Victorien.
Vous n'êtes pas monté au salon là, Victorien ?
Non, mon frère, il y va cette semaine là, à partir de mercredi. Mais bon, il y va avec ses copains, on va dire. C'est pour la troisième mi-temps.
Et moi, d'accord. Sans violence, j'espère, pas comme ce qui s'est passé, passé hier. Mais dites-moi, Victorien, est-ce que c'est un salon apaisé ou pas alors ?
Non, pas du tout. Non, je pense que là, je vais rejoindre, les propos, ce qu'a dit Didier là.
Didier.
C'est que déjà, moi, je trouve après la provocation est continuée, c'était par rapport déjà à la vache égérie. En fait, la vache égérie, c'était le symbole même de la race bovine qui viendra à cause du Mercosur. Donc pour moi, c'était déjà rien que ça. Alors je sais bien qu'elle vient des dom-tom, mais pour moi c'était déjà un peu de la provocation. Et après de
pourquoi
toute façon,
je comprends pas.
En fait, la production de bovins,
la vache qui devait donc être la star, elle venait des dom-tom.
Du salon, c'est une race des dom-tom qui s'appelle la Brahman et Biggin, cette vache de la race Brahman, elle est aussi la race de vache que les Brésiliens croisent pour produire leur viande dans les feedlots, croisent dans les feedlots, et la viande du Mercosur est là dans ces
Donc pour vous, c'était un symbole de l'arrivée des bêtes brésiliennes.
Après, c'était aussi une volonté qui a, enfin, le choix de cette race-là a été fait il y a plus d'un an, et c'était une volonté de mettre en avant les dom-toms. Oui, enfin, je veux dire,
le pas qu'elle ressemble pas vraiment une vache d'ailleurs.
Le monde agricole était déjà, on va dire, en tension. Pour moi, on va dire qu'ils auraient dû déjà anticiper que ça pourrait mettre en colère.
C'est certainement une décision malheureuse. Ouais, t'as raison.
Ouais, si c'est ça.
Mais Victorien, la vache, elle est pas là, quoi. Hein.
Mais Victorien, vous vous souvenez, on avait dit, est-ce que le salon sera boycotté par les agriculteurs eux-mêmes? Est-ce que bon, on ne voit pas ça là. On voit quand même que l'ambiance est relativement apaisée.
Oui, l'ambiance est apaisée. Et puis, on va dire, pour certains agriculteurs qui emmènent leurs animaux, entre guillemets, c'est un peu leur semaine de vacances, hein, y a ça aussi. Hein. Et puis, oui, quand on passe au salon, qu'on reçoit des prix, c'est toujours une reconnaissance du travail. Donc, non, je pense
pas que... Du coup, il n'y a pas que les vaches, quoi. Le concours général, c'est pas que les vaches, quoi. Hein. Ouais, c'est aussi tous les produits, c'est aussi tout le reste, quoi.
Victorien, c'est aussi l'occasion pour les agriculteurs ou ceux qui sont ici sur les produits régionaux de se rencontrer et deux, de voir toujours qu'ils sont en phase avec le public. Faut rappeler que les mouvements des agriculteurs, depuis qu'ils ont démarré, ils sont soutenus à chaque fois par 80% des Français. Merci Victorien, on se dit à bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Bonne journée du côté de la Mayenne.
Bon courage en volaille. Hein.
Charles, salon apaisé ou pas? La colère, elle est toujours là, quoi, en fait.
Oui, mais je pense que quand même, j'ai entendu ce qu'a dit, j'ai oublié d'ailleurs mon bonnet de la Confédération paysanne. Le bonnet jaune. Confédération rurale? Non.
Coordination rurale.
Je confonds les noms qui se ressemblent. Il y a quelques syndicats très énervés, mais je pense que effectivement le bonheur, le plaisir de se retrouver au salon, en fait, surmonte un peu ces difficultés. Et je trouve ça pas plus mal que le salon se déconnecte un petit peu de la politique. C'est-à-dire, je trouve que beaucoup de politiques en font une espèce de rampe, de promotion.
Il y avait le jeune Attal hier qui est resté très longtemps aussi.
Oui, n'est pas Chirac.
C'est qui va rester le plus longtemps d'ailleurs?
N'est pas Chirac qui veut. Il faut quand même quand même un peu de spontanéité, de sincérité, de vrai goût.
Tu crois que les politiques.
Mais non, mais il faut que les actes suivent, quoi. Enfin, Chirac, il venait tâter le cul des vaches, discuter avec les
gens. Je pense qu'il y en a beaucoup, si tu veux, qui ont vu dans leur vie.
Mais ils ne sont pas sincères, les politiques qui viennent défiler ici.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient pas la différence entre une vache et un cheval, qui feraient pas la différence entre un Beaujolais et un Bourgogne, qui n'y connaissent rien, si tu veux, voilà, et qui verraient un paysage du Jura et un paysage
c'est l'homme du Jura qui parle.
La Côte d'Azur.
Et un paysage de la Normandie profonde et ils sauraient pas lequel est lequel. C'est quand même ça la réalité. Il y en a qui
découvrent l'agriculture une fois par an.
Il y en a qui, depuis leur naissance, ne sont pas beaucoup sortis des 6e et 7e arrondissements de Paris,
mais
quand même.
Mais de qui parle-t-il?
De qui parle-t-il?
Joël.
Donc voilà, moi je trouve que si on peut laisser un peu les politiques de côté et que simplement il y ait le plaisir, là, en rentrant par exemple dans le salon, je suis tombé sans faire exprès sur les stands de la Polynésie, de Tahiti. Mais je trouve ça exceptionnel parce que c'est ça aussi la France. Et c'est ça qui fait l'incroyable singularité de notre pays par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres pays du monde. C'est que la France, elle existe à des milliers et des milliers de kilomètres de sa métropole. Et il y a la même joie, la même fierté de venir présenter les produits, de venir présenter son territoire. Donc, moi, je pense que ça peut être un salon assez joyeux et apolitique.
Joël.
Donc, les politiques à Fouera.
Non, enfin.
Je dis ça alors que Xavier Bertrand sera avec nous tout à l'heure.
Oui,
président des régions de France.
Peut-être l'un des seuls d'ailleurs à vraiment peut-être savoir de quoi il parle dans ces cas-là, quoi.
Non, mais au-delà de savoir de quoi on parle, je pense qu'il faut aussi aimer les gens et être réellement à l'aise avec les autres. Et vous avez des politiques qui savent faire ça. Où on le ressent.
Naturellement.
Voilà, naturellement. Ou en tout cas, qu'ils savent nous donner l'impression, s'ils font semblant. Et vous en avez des autres, et vous sentez réellement que, voilà, c'est pas leur place. Ils sont pas super à l'aise, ça manque de naturel. Et quand je reviens sur la présence du président de la République, même si elle était. 12 heures, même si elle était ultra balisée, etc.
À chaque fois, il faut battre des records, tu sais.
Les images que j'ai pu voir étaient assez naturelles, tu vois. Là, j'en suis à la troisième émission à dire du bien de lui.
De toute façon, t'es en train de redevenir
Macroniste.
Tu seras peut-être la dernière macroniste de France.
Je crois que.
Tu sais, Joël, voilà. Tu dis qu'il faut de la compassion et qu'ils connaissent, machin, qu'ils sont à l'aise. Mais on attend des politiques qui résolvent, résolvent nos problèmes quand même.
Oui, mais tu vois, c'est.
Les paysans, ce qui les agace, c'est que leurs problèmes, tout le monde les connaît, ils ne sont pas résolus.
Je veux dire, mais le salon de l'agriculture, c'est aussi un moment de convivialité, tu vois. C'est vrai que c'est un temps politique pour les. Mais c'est un moment de convivialité. Moi, par exemple, j'ai jamais été très attirée par les vaches. Par contre, tout ce qui est produit du terroir, discuter sur les stands, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, quand tu vois des politiques qui savent faire ça et qui restent des heures, c'est top. Mais par exemple, Gabriel Attal, je trouve qu'il n'est pas hyper à l'aise dans l'exercice. Même Jordan Bardella n'est pas à l'aise dans l'exercice. Je trouve qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus naturel. Xavier Bertrand, c'est des gens qui sont beaucoup plus naturels dans cet exercice-là. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment, tu sens qu'ils sortent de, qui viennent de sortir de leur ville et ils savent pas, ils sont un peu empruntés. Donc ça, c'est déjà la première chose.
Mais je pense
la
que deuxième même chose, les agriculteurs ne sont plus dupes de ça.
Ouais, non, comme le dit voilà, Didier,
ils veulent maintenant des résultats.
Je vous garantis pas que la semaine va se finir tranquillement sans eux.
Ah bah attends,
vas-y Joël.
Ce que je voulais dire, c'est la deuxième chose sur le climat apaisé. Il faut savoir que dans la France, je pense qu'il y a la grande majorité ne sont jamais venus au salon de l'agriculture. Et ce qu'on en voit, ce sont les images télévisées ce week-end. Ce qu'on a vu, c'est une bagarre, par exemple, qui n'a rien à voir.
Dans un instant.
Voilà, qui n'a rien à voir, mais quand même qui traduit ce qu'on ressent tous de la France. Ça veut dire des tensions. Oui. Et donc, quand un moment comme ça qui est convivial est censé être convivial, où on voit des vaches, des familles, etc. Les images qui tournent, c'est encore de la tension. Je peux vous dire que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est?
Alors qu'ici, il y a toujours une très bonne ambiance.
Voilà.
Bah, on en discutera d'ailleurs avec ceux qui vont venir ici à la table des GG des Grandes Gueules, d'ailleurs nous présenter leurs produits, savoir dans quel état d'esprit ils sont aussi. On va discuter avec eux tout à l'heure d'ailleurs à 10h avec un producteur. Cette fois, on sera du côté du fromage de Maroilles. Il vient au concours général du fromage. Parlera d'exportation.
Moi, je dis que Maroilles à 10h du mat, c'est parfait.
Donc, Didier Giraud, Joël Dagosséry, Charles Consigny, restez avec nous. Dans un instant, on s'en fout pas, mais vous savez que j'ai donné le top départ pour gagner les vacances. Pensez-y, vacances par SMS au 732-16, c'est le mot à envoyer. Et vous gagnez les séjours Bel Embras, un séjour d'une valeur de 2000 euros. C'est le spécialiste des clubs de vacances. C'est un séjour premium, tout compris. Il est pour vous en envoyant vacances par SMS au 732-16 et vous choisissez la mer, la montagne, ensuite ou la campagne, le gagnant tout à l'heure à 11h20. Il est 10h20. Dans un instant, Anaïs Inès Sainz nous rejoint pour le On s'en fout sans pouvoir.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct de la région des Hauts-de-France, ici au hall 7, deuxième étage. Les Grandes Gueules ont donc posé leur micro au salon de l'agriculture, comme nous le faisons tous les ans. Cette année avec, aujourd'hui pour commencer ce salon, Charles Consigny, avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry. Tout à l'heure, à 10h, nous serons rejoints par la confrérie du Maroilles.
Il se prépare là.
Il se prépare pour le concours général du fromage, bien évidemment. On va parler fromage, exportation, la spécificité du Maroilles. Tout à l'heure, avec eux, ils seront là à 10h.
C'est la bonne heure pour commencer le Maroilles. À 10h, c'est bien.
Avec une petite chicorello, là, si tu veux. Quelle heure est-il? Donc, il est 10h moins le quart. On accueille Anaïs Inès Sainz.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le ton est monté hier au salon de l'agriculture. Oui, oui, ça a même dégénéré en bagarre générale. Vous voyez les images sur RMC Story, vous entendez derrière moi l'échauffourée dans les allées du salon. Des coups de poing, des coups de pied sont échangés entre des exposants et des visiteurs. Des ustensiles ressemblant à des couteaux semblent également brandis par plusieurs protagonistes. Certains se sont aussi mis des coups à l'aide de planches en bois. Tout ça autour de quoi les GG d'un stand de nougat. Oui. 15 personnes quand même interpellées au total. Un gendarme et un policier ont même été légèrement blessés. On ignore pour l'instant l'origine de cette bagarre géante. C'est ce que précise en tout cas la préfecture de police de Paris. Est-ce qu'on s'en fout pas, mon cher Didier?
Bah non, on s'en fout pas.
Tu n'y étais pas, hein, c'est pas
non,
toi.
Non, je suis
sûr.
Matin en retard.
On va vérifier. Joël,
on s'en fout pas.
Charles,
on s'en fout pas.
Bon, mon Didier.
Tu vois, j'ai un copain viticulteur en Corrèze là, qui est à deux stands de nous là, qui m'explique aussi combien
depuis 4-5 ans. Le samedi soir est quelque chose qui devient un haut risque et les jeunes qui viennent faire un tour au salon le samedi, ils sont aussi dans une conduite qu'on appelle de binge drinking. C'est bien comme ça.
C'est parfaitement prononcé.
C'est ça. Quel accent. Quel accent.
Et en fait, voilà, où les mecs, ils s'alcoolisent. Enfin, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est terrible pour les viticulteurs où c'est le produit.
Là, c'est le nougat. Hein.
Le fait de s'alcooliser, ça a aussi des conséquences derrière, quoi. Lui, il me raconte que des mecs lui achètent une bouteille à 15 balles et la boivent cul sec devant lui, quoi.
Ils ont pas l'air tellement alcoolisés.
Et derrière ça, là, enfin, ce genre de truc, c'est quand même souvent lié à ça. Ouais. Regarde-y, c'est très souvent le samedi soir. Le reste de la semaine, c'est plus calme. Et forcément, on est dans quelque chose qui ressemble le reste de la société, quoi. Regard de travers pour un crachat sur un nougat, les mecs.
Visiblement, ce sont des visiteurs qui s'en sont pris à des exposants. Alors, on ne sait pas quelle est l'origine du conflit, des visiteurs qui ont craché sur les produits.
Didier a des pudeurs de gazelle. Regardé les images, excuse-moi, c'était les habituels Kaira qui foutent le bordel partout où elles passent.
D'accord.
Hein, c'est pas ce que tu décris, Didier.
À la limite, ça m'a attristé parce que je me suis dit que ces jeunes au look de racaille soient curieux du salon de l'agriculture et viennent s'y instruire et y découvrir des choses, je trouvais ça plutôt réjouissant. Mais qu'ils ne soient pas capables de venir s'en foutre le bordel et se mettre sur la gueule avec des agriculteurs, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que ça va ne faire que renforcer les gens.
Je n'ai pas croisé les mecs de Montélimar, mais si c'est le cas, c'est des gens qui savent se défendre. Je ne suis pas inquiet.
Très rapidement, Joël.
Non, finalement, j'ai plus rien à dire.
Ah bon ? Les GG, nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire. Voilà les mots de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui convoquera cet après-midi l'ambassadeur américain en France. L'administration Trump avait dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans le cadre du meurtre de Quentin. Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions, au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation. Avait écrit le même jour, par exemple, la sous-secrétaire d'État à la diplomatie américaine, Sarah Rogers. C'est trop manifestement donc pour le Quai d'Orsay qui a décidé de montrer les muscles. On s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout pas.
Joël ?
Pas.
Didier ?
On s'en fout un peu.
Joël ?
Ok. Première chose, c'est que je pense que c'est très bien de l'avoir convoqué. Il y a une sorte d'ingérence idéologique qui se fait de la part de nos alliés, entre guillemets. Je trouve que la France est assez poreuse, en fait, aux conflits extérieurs. Donc, on apporte assez facilement des choses, des guerres, qui soient culturelles ou des guerres qui soient réellement des guerres. On le voit avec le conflit israélo-palestinien, mais aussi avec tout ce qui a été wokisme, on l'a bien emporté, et le populisme à la Trump aussi, qui s'importe bien. Donc, je crois qu'il faut mettre un peu le holà sur tout ça.
Il y avait Mélanie la semaine dernière déjà.
Oui, exactement. Et il ne faut pas se leurrer pour tous les gens. Non, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de réagir, mais je dis juste qu'il ne faut pas se leurrer pour tous les gens qui prêtent allégeance un peu à Trump, que ce n'est pas notre ami. Alors, c'est peut-être pas notre ennemi, mais c'est sûrement pas notre ami. Et tout ce qu'il fait, c'est pour déstabiliser la France et l'Europe. C'est son objectif. Donc, je considère que cette prise de parole rentre dans le même cadre pour nous déstabiliser et appuyer sur.
Et nous, quand par exemple Emmanuel Macron qui commande beaucoup tout ce qui se passe dans le monde entier, et là on déstabilise pas. Non, là on a raison d'intervenir.
Emmanuel
Macron est un peu champion de l'intervention sur tous les sujets internationaux.
Et on fait tous de l'influence, mais lorsque ça se fait à notre détriment, il faut stopper. Voilà.
Charles,
je trouve l'ambassadeur des États-Unis en France odieux. Insupportable. Je déteste son ton, sa manière de faire la leçon, sa manière d'écrire des courriers aux uns et aux autres pour leur dire quoi faire.
Un peu le roi des gars.
Il est quand même assez spécial, cet ambassadeur. Après, franchement, je vois pas le problème dans le fait de réagir à un crime politique. Effectivement, nous, on ne cesse de commenter ce qui se passe aux États-Unis, de donner notre avis, d'accuser les uns et les autres d'être des fascistes, etc., etc. Donc, ça ne me choque pas que Mélanie ou Trump ou l'administration américaine dans son ensemble réagissent à ce meurtre. Même si on voit bien, il faut être lucide. Covid.
Et expulser l'ambassadeur des États-Unis.
Non, mais cet ambassadeur est odieux, mais cela dit, notre ministre n'a aucune autorité. Donc en même temps, bon.
J'ai l'impression, il me semble plus dur contre l'ambassadeur américain que contre l'ambassadeur algérien, par exemple.
Il faut dire les choses comme elles sont. Notre ministre des Affaires étrangères, il fait marrer tout le monde. Donc moi, je pense que en même temps, il ne faut pas être aveugle sur le projet politique qui existe de Elon Musk et compagnie. C'est un projet politique avéré de répandre des politiques extrêmement à droite dans tous les pays, on est d'accord ou pas.
Mais quand la classe politique française soutient Kamala Harris quasiment dans son intégralité, c'est aussi de l'influence politique.
Mais tout à fait.
Donc tout le monde le fait, voilà.
Avec succès d'ailleurs.
C'est la poule.
On a vu d'ailleurs que ça marchait bien.
Est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est né le premier d'ailleurs?
Tu t'en fous, t'as
dit. On enchaîne.
Oui, mais je m'en fous.
Une frustration, les GG, celle de David Douillet, pas satisfait du tout des Français au JO d'hiver, et il l'a bien fait savoir chez nos amis des GG du sport. Écoutez.
J'ai vu des athlètes effondrés, oui, mais j'ai vu des athlètes, bon, un peu comme Clemet, bah ouais, on a fait quatrième, on a fait cinquième, ouais. Bon, bah ouais, ok, tranquille, voilà, ça part avec le sourire et tout. Alors ça, non, c'est pas possible.
Voilà, des athlètes un peu comme au Clemet, on s'en fout ou pas, Didier?
Bah, pas vraiment, je trouve qu'il a un peu raison.
T'en fous pas.
Attends, pardon, je m'en fous pas, excuse-moi.
On s'en fout pas. Charles.
On s'en fout pas.
Didier.
Ouais, je trouve que j'ai écouté David Douillet hier et je trouve qu'il a un peu raison. J'ai vu aussi ces images. On a vu des gens qui pleuraient parce qu'ils ont fini troisième alors qu'ils avaient l'ambition d'être champion olympique. Et on a vu des gens qui sont quatrième ou cinquième et qui, voilà, ça leur faisait rien. J'ai vu ces images aussi et je pense qu'il y avait dans cette jeune génération, parce que c'est plutôt la jeune génération, des gens qui découvraient les JO et qui étaient déjà contents d'être là, quoi. Tu vois, David Douillet, c'est un super compétiteur qui a été dur avec ces jeunes-là. Je sais pas si c'est des gens qui ont pas la mentalité de vainqueur ou si c'est aussi des gens qui se familiarisaient avec le côté JO pour être plus performant en 2030 chez nous, tu vois.
On a quand même
explosé, voilà, notre record de médaille.
Grâce au biathlon.
Et voilà, je trouve que David Douillet a été dur, mais j'ai aussi vu ces images-là qui m'ont choqué.
Joël?
Bon, moi, je n'ai pas regardé toutes les
épreuves. Toi, tu ne vois que le patinage.
Moi, je ne regarde que le patinage.
Le patinage.
J'adore le patinage.
Devant le curling.
Et c'est une discipline dans laquelle on brille bien, donc ça le va bien. Mais moi, je pense que ce que décrit David Douillet, c'est aussi quelque part un état d'esprit français. Je veux dire, nous, on est très bien quand on est deuxième.
Oui, l'important, c'est de participer.
On est content quand on est deuxième. L'important, c'est de participer. Quand on finit cinquième, on a l'impression qu'on a fini premier. Il y a quelques disciplines sur lesquelles on est très bon, et puis tout le reste, c'est pas grave si on est très moyen. Mais ça, c'est un peu partout. C'est en économie. C'est un état d'esprit très français. Et quand tu es comme David Douillet, un grand champion, et ben ça t'énerve. Ça t'énerve quand t'as un peu d'ambition, effectivement. Même si on a battu le record des médailles, ben ça t'énerve quand même de voir ça.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on revient en direct de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au Hall 7, au deuxième étage, à l'étage des régions. Et avec les Hauts-de-France, on va commencer à regarder un peu les bons produits locaux. Cette fois-ci, nous serons avec les producteurs de maroilles. C'est le grand concours agricole de fromage. À quoi juge-t-on un bon fromage? Qu'est-ce qu'un bon maroilles? On va en parler avec la confrérie du maroilles. Les amis, ils sont en grande tenue, en tenue d'apparat. Ils seront avec nous. Puis après, on regardera un peu les élections municipales. Parce que ça s'approche.
On a trois semaines.
Demain, on sera à Lyon. Alors, ces élections municipales, est-ce que c'est un enjeu local ou un enjeu national? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.